Il était sur son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imitait son silence.
Vous êtes sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Au micro, Anaïs, avec nous dans le studio, Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Flo.
Bonjour.
Romain.
Bonjour.
Et Delphine.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous allons vous lire Le bourgeois gentilhomme de Molière. Alors, Hélène, tu peux nous en dire quelques mots?
Ouais, une partie seulement. Désolé, chers auditeurs, vous aurez la première partie de la pièce. Le bourgeois gentilhomme, elle s'inscrit dans le cycle de théâtre en musique qu'on a déjà entrepris avec La Tour d'Onel d'Alexandre Dumas en novembre 2013, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'était des pièces qui étaient composées avec une très forte partie musicale et les deux étaient mêlés. Donc c'est Lully qui assurait la musique sur Le bourgeois gentilhomme et je vous lis quelques lignes sur la pièce. Cette pièce faite à Chambord pour le divertissement du roi au mois d'octobre 1670 est représentée en public à Paris pour la première fois au théâtre du Palais Royal le 23e novembre de la même année 1670 par la troupe du roi.
C'est parti ?
C'est parti.
Eh bien, go.
Scène première, maître de musique, maître à danser, trois musiciens, deux violons, quatre danseurs. Maître de musique parlant à ses musiciens. Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'ils viennent.
Et vous aussi, de ce côté.
Est-ce fait ?
Oui.
Voyons, voilà qui est bien.
Est-ce quelque chose de nouveau ?
Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé.
Peut-on voir ce que c'est ?
Vous allez l'entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère.
Ah, nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant.
Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât.
Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons.
Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose.
Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent et je tiens que, dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées.
Oui, j'en demeure d'accord et je les goûte comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites, mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent pas un homme à son aise. Il faut mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici.
Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement.
Mais vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne.
Assurément. Mais je n'en fais pas tout mon bonheur et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses.
Je le voudrais aussi et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il payera pour les autres ce que les autres loueront pour lui.
Le voilà qui vient.
Eh bien, messieurs, qu'est-ce ? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie ?
Comment ? Quelle petite drôlerie ?
Et là, comment appelez-vous cela, votre prologue ou dialogue de chansons et de danse ?
Vous nous y voyez préparés.
Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais.
Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir.
Je vous prie tous deux de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporté mon habit afin que vous me puissiez voir.
Tout ce qu'il vous plaira.
Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête.
Nous n'en doutons point.
Je me suis fait faire cette indienne-ci.
Elle est fort belle.
Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin.
Cela vous sied à merveille.
Laquais ! Oh là, mais de laquais !
Que voulez-vous, monsieur ?
Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrées ?
Elles sont magnifiques.
Voilà encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices.
Il est galant.
Laquais !
Monsieur !
L'autre laquais.
Monsieur ?
Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela ?
Fort bien. On ne peut pas mieux.
Voyons un peu notre affaire.
Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable.
Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Et vous n'y étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là.
Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres, et l'air est aussi beau qu'ils s'en puissent faire. Écoutez seulement.
Donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Attendez, je crois que je serai mieux sans robe. Non, redonnez-la-moi, cela ira mieux.
Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême. Depuis qu'à vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis. Et si vous traitez ainsi, bel Iris qui vous aime, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis ?
Cette chanson me semble un peu lugubre, elle endort, et je voudrais que vous la puissiez un peu regaillardir par-ci, par-là.
Et il faut, monsieur, que l'air soit accommodé vos paroles.
On m'en a appris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez, là, comment est-ce qu'il dit ?
Par ma foi, je ne sais.
Il y a du mouton dedans, du...
Du mouton ?
Oui. Ah !
Je croyais un ton aussi douce que belle. Je croyais un ton plus douce qu'un mouton. Hélas ! Hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois.
N'est-il pas joli ?
Ah, le plus joli du monde.
Et vous le chantez bien.
C'est sans avoir appris la musique.
Vous devriez l'apprendre, monsieur. Comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble.
Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses.
Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique ?
Oui, monsieur.
Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin.
La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique.
La musique et la danse, la musique et la danse, c'est là tout ce qu'il vous faut.
Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique.
Il n'y a rien qui soit ni si nécessaire aux hommes que la danse.
Sans la musique, un état ne peut subsister.
Sans la danse, un homme ne saurait rien faire.
Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Hein.
Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser.
Comment cela ?
La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes ?
Cela est vrai.
Et si tous les hommes apprenaient la musique ? Ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle ?
Vous avez raison.
Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours « Un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire ?»
Oui, on dit cela.
Et faire un mauvais pas, peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser ?
Cela est vrai, vous avez raison tous deux.
C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique.
Je comprends cela à cette heure.
Voulez-vous voir nos deux affaires ?
Oui.
Voilà qui n'est point sot et ces gens-là se trémoussent bien.
Lorsque la danse sera mêlée et mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous.
C'est pour tantôt au moins. Et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant.
Tout est prêt.
Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique et qui avait de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis.
Est-ce que les gens de qualité en ont ?
Oui, monsieur.
J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau ?
Sans doute. Il vous faudra trois voix, un dessus, une haute contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basseries continues. Avec deux dessus de violon pour jouer les ritournelles.
Il y faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux.
Laissez-nous gouverner les choses.
Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table.
Vous aurez tout ce qu'il vous faut.
Mais surtout, que le ballet soit beau.
Vous en serez content, et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez.
Ah, les menuets sont ma danse. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt.
Une révérence pour saluer une marquise ?
Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène.
Donnez-moi la main.
Non, vous n'avez qu'à faire, je le retiendrai bien.
Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec trois révérences en avant, et à la dernière, vous baisser jusqu'à ses genoux.
Faites un peu. Bon.
Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là.
Dis-lui qu'il entre ici pour me donner le son. Je veux que vous me voyez faire.
Allons, monsieur, la révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche. Les jambes pointant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait si étendu, et la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus écartée, la tête droite, le regard assuré. Avancez, le corps ferme. Touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. Une, deux. Remettez-vous, redoublez de pied ferme, un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte à la première et que le corps soit bien effacé. Une, deux. Allons, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. Avancez, le corps ferme, avancez, partez de là. Une, deux. Remettez-vous, redoublez, un saut en arrière. En garde, monsieur, en garde.
Vous faites des merveilles.
Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses, à donner et à ne point recevoir. Et comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors.
De cette façon donc, un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme et de n'être point tué ?
Sans doute. N'invitez-vous pas la démonstration ?
Oui.
Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres, nous devons être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique, la...
Tout beauf, monsieur le tireur d'armes. Ne parlez pas de la danse, ne parlez de la danse qu'avec respect.
Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique.
Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne.
Voyez un peu l'homme d'importance.
Voilà un plaisant animal avec son plastron.
Mon petit maître a dansé. Je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière.
Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier.
Oh, vous fou d'aller quereller, lui qui entend la tierce et la carte et qui sait tuer un homme par raison démonstrative.
Je me moque de sa raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte.
Oh. Doudou, vous dis-je.
Comment, petit impertinent?
Et mon maître d'armes?
Comment, grand cheval à carrosse?
Hé, mon maître a dansé.
Si je me jette sur vous!
Doucement!
Si je me mets la main sur vous.
Tout beau.
Je vous étrillerai d'un air.
De grâce.
Je vous rosserai d'une manière.
Je vous prie. Ah.
Laissez-nous un peu lui apprendre à parler.
Mon Dieu,
oh là 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 là. C'est pas vrai.
Oh là. Monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci.
Qu'est-ce donc ? Qu'y a-t-il, messieurs ?
Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains.
Et quoi, messieurs ? Mais faut-il s'emporter de la sorte ? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère ? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce ? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements ?
Comment, monsieur ? Il vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession.
Oh, un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience.
Ils ont tous de l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne.
Faut-il que cela vous émeuve ? Ce n'est pas de vaine gloire et de conditions que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu.
Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur.
Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée.
Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences.
Mais que sera donc la philosophie ? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art. Et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur et de baladin.
Allez, philosophe de chien.
Allez, bélitre de pédant.
Allez, cuistre fiefé.
Comment maraud que vous êtes !
Monsieur le philosophe.
Non mais...
Infâme coquin, insolent.
Monsieur le philosophe.
La peste l'animal.
Messieurs.
Impudent.
Monsieur le philosophe.
Diantre soit de l'âne batté.
Messieurs.
Scélérat.
Monsieur le
philosophe. Au diable l'impertinent.
Messieurs.
Fripon, gueux, traître, imposteur.
Monsieur le philosophe. Messieurs. Monsieur le philosophe. Monsieur le philosophe. Battez-vous tant qu'il vous plaira. Je n'y saurais que faire et je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal.
Venons-en à votre leçon.
Ah, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés.
Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. En laissant cela, que voulez-vous apprendre ?
Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune.
Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin sans doute ?
Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire.
Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort.
Ce latin-là a raison.
N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements de science ?
Oh oui, je sais lire et écrire.
Et par où vous plaît-il que nous commencions ? Voulez-vous que je vous apprenne la logique ?
Qu'est-ce que c'est que cette logique ?
C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit.
Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit ?
La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde de bien juger par le moyen des catégories, et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Célarant, Darry, Ferriot, Paridipton, etc.
Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie.
Voulez-vous apprendre la morale ?
La morale ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale ?
Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions et...
Non, laissons cela, je suis bilieux, comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon saoul quand il m'en prend envie.
Est-ce la physique que vous voulez apprendre ?
Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique ?
La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, la tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons.
Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini.
Que voulez-vous donc que je vous apprenne ?
Apprenez-moi l'orthographe.
Très volontiers.
Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point.
Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles, sonnent, oui, avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix, A, E, I, O, U.
J'entends tout cela.
La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A.
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 A. Oui.
La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E.
A, E. A, E. Ma foi, oui. Que cela est beau.
Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. Alors, A, E, I.
A, E, I. 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 Cela est vrai. Vive la science !
La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins. Le haut et le bas. O.
O. Oh, il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O.
L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O.
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 O. Vous avez raison. O. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose.
La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U.
U. U. Il n'y a rien de plus véritable. U.
Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... U.
U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela ?
Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes.
Et est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci ?
Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents, dans O. Et da.
Da. Da. Oui. Les belles choses. Les belles choses.
L'F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du dessous. Fa. Fa.
Fa. Fa. C'est la vérité. Mon père et ma mère, que je vous veux de mal.
Et l'air, l'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement.
Cela est vrai. Ah, l'habile homme que vous êtes, et que j'ai perdu de temps.
Je vous expliquerai à fond toutes ces choses.
Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité, et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.
Fort bien.
Cela sera galant, oui.
Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire ?
Non, non, point de vers.
Vous ne voulez que de la prose ?
Non, je ne veux ni prose ni vers.
Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.
Pourquoi ?
Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers.
Il n'y a que la prose ou les vers ?
Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose.
Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela ?
De la prose.
Quoi ? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose.
Oui, monsieur.
Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, Je voudrais donc lui mettre dans un billet
« Oui.
Belle marquise ». Vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment.
Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences.
Non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Il faut étendre un peu la chose.
Non, vous dites, je ne veux pas que ces paroles-là dans le billet... Je ne veux que ces paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on peut les mettre.
On peut les mettre premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos beaux yeux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien... Mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour.
Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure ?
Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous prie de venir demain de bonne heure.
Je n'y manquerai pas.
Comment, mon habit n'est point encore arrivé ?
Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. J'enrage. Que la fièvre quartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Au diable le tailleur ! La peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je... Ah, vous voilà ! Je m'allais mettre en colère contre vous.
Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit.
Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre et il y a déjà 2 mailles de rompues.
Ils ne s'élargiront que trop.
Oui, si je romps toujours des mailles, vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement.
Point du tout, monsieur.
Comment, point du tout ?
Ils ne vous blessent point.
Je vous dis qu'ils me blessent, moi.
Vous imaginez cela ?
Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison.
Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fût pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés.
Qu'est-ce que c'est que ceci ? Vous avez mis les fleurs en bas ?
Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut.
Est-ce qu'il faut dire cela ?
Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte.
Les personnes de qualité portent les fleurs en bas ?
Oui, monsieur.
Oh, voilà qui est donc bien.
Si vous voulez, je les mettrai en haut.
Non, non.
Vous n'avez qu'à dire.
Non, vous dis-je. Vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien ?
Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringrave, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps.
La perruque et les plumes sont-elles comme il faut ?
Tout est bien.
Monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je le reconnais bien.
C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi.
Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien.
Voulez-vous mettre votre habit ?
Oui, donnez-moi.
Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Hola, entrez vous autres. Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité.
Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît aux garçons quelque chose pour boire.
Comment m'appelez-vous ?
Mais mon gentilhomme.
Mon gentilhomme ? Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous-en, demeurez toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme.
Oh, monseigneur, nous vous sommes bien obligés.
Monseigneur ! Monseigneur ! Attendez, mon ami. Monseigneur mérite quelque chose. Et ce n'est pas une petite parole que monseigneur. Tenez, voilà ce que monseigneur vous donne.
Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur.
Votre grandeur ! Wouhou ! Attendez ! Ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur.
Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités.
Il a bien fait. Je lui allais tout donner. Suivez-moi que j'aille un peu montrer mon habit par la ville. Et surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voit bien que vous êtes à moi.
Oui, monsieur.
Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Ne bougez pas. La voilà. Nicole ?
Plaît-il ?
Écoutez. Qu'as-tu à rire ? Que veut dire cette coquine-là ?
Comme vous voilà bâtie.
Comment donc ?
Ah, mon Dieu !
Quelle friponne est-ce là ? Te moques-tu de moi ?
Nanny, monsieur, j'en serais bien fâchée.
Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage.
Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher.
Tu ne t'arrêtes pas.
Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire.
Mais voyez quelle insolence.
Monsieur, vous êtes tout à fait drôle comme cela.
Je
vous prie de m'excuser, mais...
Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné.
Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je, je ne rirai plus.
Prends-y bien garde, il faut que, pour tantôt, tu nettoies le... que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle et... Putain, encore ?
Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon soutre. Cela me fera plus de bien.
J'enrage.
De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire.
Si je te prends...
Monsieur, j'en crèverai si je ne ris pas.
Mais a-t-on jamais vu une pandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres ?
Pardon, que voulez-vous que je fasse, monsieur ?
Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt.
Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Toutes vos compagnies font tant de désordres séants que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur.
Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde ?
Vous devriez au moins la fermer à certaines gens.
Ah ah ! Voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là ? Vous moquez-vous du monde de vous être fait enarnacher de la sorte ? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous ?
Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi.
Vraiment ? On n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde.
Qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît ?
Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est séant carême prenant tous les jours. Et tôt le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs, dont tout le voisinage se trouve incommodé.
Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Et ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomaîtres viennent crotter régulièrement tous les jours.
Ouais, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne.
Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser, à l'âge que vous avez.
Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pieds ébranler toute la maison et nous déraciner tous les carreaux de notre salle.
Taisez-vous, ma servante et ma femme.
Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes ?
Est-ce que vous aviez envie de tuer quelqu'un ?
Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes l'une et l'autre. Et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela.
Vous devriez plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue.
Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses.
J'ai entendu oui dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de potage, un maître de philosophie.
Fort bien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens.
N'irez-vous point loin l'un de ces jours au collège pour faire donner le fouet à votre âge ?
Pourquoi non ? Plût à Dieu l'avoir tout à l'heure le fouet devant tout le monde et savoir ce qu'on apprend au collège.
Oui, ma foi, cela vous rendrait la jambe bien, bien mieux faite.
Sans doute.
Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison.
Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous ce que c'est que vous dites à cette heure ?
Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte.
Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici.
Ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne les gère.
Je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous. Ce que je vous dis à cette heure, qu'est-ce que c'est ?
Des chansons ?
Et non, ce n'est pas cela. Ce que nous disions tous deux, le langage que nous parlons à cette heure.
Eh bien...
Comment est-ce que ça s'appelle ?
Cela s'appelle comme on veut la...
C'est de la prose, ignorante !
De la prose !
Oui, de la prose ! Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un...
Comment ?
Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis... Qu'est-ce que tu fais quand tu dis « u » ?
Quoi ?
Dis un peu « u » pour voir.
Eh bien, « u ».
Qu'est-ce que tu fais ?
Bah, je dis « u ».
Oui, mais quand tu dis « u », qu'est-ce que tu fais ?
Bah, je fais ce que vous me dites.
Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. « U ». Vois-tu ? U.
Je fais la moue.
Oui, cela est bio.
Voilà qui est admirable.
C'est bien autre chose. Si vous aviez vu O et Da, Da et Fa, Fa, Fa.
Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatia-là?
De quoi est-ce que tout cela guérit?
J'enrage quand je vois des femmes ignorantes.
Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles.
Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes qui est rempli de poudre tout mon ménage.
Ouais, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens, raison démonstrative, la ligne du corps. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau, d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu pour voir.
Bah, quoi?
Tout beau. Oh là, oh! Doucement!
Ah, mais vous me dites de pousser?
Oui, mais tu me pousses en tierce avant que de pousser en quarte et tu n'as pas la patience que je te pare.
Vous êtes fou, mon mari. Avec toutes vos fantaisies, cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse.
Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie.
Samon, vraiment! Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles, et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné.
Paix ! Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui ? C'est une personne d'importance plus que vous ne pensez, un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal? Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais et devant tout le monde il me fait des caresses dont je suis moi-même confus.
Oui, il a des bontés pour vous et vous fait des caresses, mais il vous emprunte votre argent.
Eh bien, mais c'est pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami?
Et ce seigneur, que fait-il pour vous?
Des choses dont on serait étonné si on les savait.
Et quoi?
Baste, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien et avant qu'il soit peu.
Oui, attendez-vous à cela.
Assurément, ne me l'a-t-il pas dit?
Oui, oui, il n'y manquera pas d'y faillir.
Il m'a juré sa foi de gentilhomme.
Chanson.
Ouais, vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûre.
Et moi, je suis sûre que non. Et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjoler.
Taisez-vous, le voici.
Il ne nous faut plus que cela. Il vient peut-être encore vous faire quelque emprunt. Il me semble que j'ai dîné quand je le vois.
Taisez-vous, vous dis-je.
Thank you.
Mon cher ami Monsieur Jourdain, comment vous portez-vous ?
Fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services.
Et Madame Jourdain, que voilà ? Comment se porte-t-elle ?
Madame Jourdain se porte comme elle peut.
Comment ? Monsieur Jourdain ? Vous voilà le plus propre du monde !
Vous voyez ?
Vous avez tout à fait bon air avec cet habit, et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous.
Il le gratte par où il se démange.
Tournez-vous ? Cela est tout à fait galant.
Oui, aussi saut par derrière que par devant.
Ma foi, Monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi.
Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. Dans la chambre du roi.
Allons, mettez.
Monsieur, je sais le respect que je vous dois.
Mon Dieu, mettez, point de cérémonie entre nous, je vous prie.
Monsieur.
Mettez, vous dis-je, Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami.
Monsieur, je suis votre serviteur.
Et je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez.
J'aime mieux être un civil qu'importun.
Je suis votre débiteur, comme vous le savez.
Oui, nous le savons que trop.
Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions, et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément.
Monsieur, vous vous moquez.
Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait.
Je n'en doute point, monsieur.
Je veux sortir d'affaires avec vous, et je viens ici pour faire nos comptes ensemble.
Eh bien, vous voyez votre impertinence, ma femme.
Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis.
Je vous le disais bien.
Voyons un peu ce que je vous dois.
Vous voilà avec vos soupçons ridicules.
Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté ?
Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis.
Cela est vrai.
Une autre fois 6,20.
Oui.
Et une autre fois 140.
Vous avez raison.
Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres.
Le compte est fort bon. 5060 livres.
1832 livres à votre plumassier.
Justement.
2780 livres à votre tailleur.
Il est vrai.
4379 livres 12 sols 8 deniers à votre marchand.
Fort bien, 12 sols 8 deniers. Le compte est juste.
Et 1748 livres 7 sols 4 deniers à votre sellier.
Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait ?
Somme totale, 15 800 livres.
Somme totale est juste, 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner. Cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour.
Eh bien, ne vous lâche-vais-je pas bien deviné ?
Paix.
Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis ?
Et non.
Cet homme-là fait de vous une vache à lait.
Taisez-vous.
Si cela vous incommode, j'irai en chercher ailleurs.
Non, monsieur.
Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné.
Taisez-vous, dis-je.
Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse.
Point, monsieur.
C'est un vrai enjôleux.
Taisez-vous donc.
Il vous sucera jusqu'au dernier sou.
Vous tairez-vous.
J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelque autre.
C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais quérir votre affaire.
Quoi ? Vous allez encore lui donner cela ?
Que faire ? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi ?
Allez, vous êtes une vraie dupe.
Vous semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain ?
J'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est pas enflée.
Mademoiselle, votre fille, où est-elle ? Que je ne la vois point.
Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est.
Comment se porte-t-elle ?
Elle se porte sur ses deux jambes.
Ne voulez-vous point, un de ces jours, venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi ?
Oui, vraiment. Nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons.
Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez.
Madame, monsieur, est-ce que Madame Jourdain est décrépite ? Et la tête lui grouille-t-elle déjà ?
Ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune. Et je rêve le plus souvent, je vous prie, d'excuser mon impertinence.
Voilà 200 louis bien comptés.
Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour.
Je vous suis trop obligé.
Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle.
Madame Jourdain vous baise les mains.
Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas, et je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner.
Tirons-nous un peu plus loin pour cause.
Il y a 8 jours que je ne vous ai vu, et je ne vous ai point mandé de nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part. Mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter.
Comment l'a-t-elle trouvé ?
Merveilleux. Et je me trompe fort, ou la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable.
Plutôt ciel.
Quand il est une fois avec lui, il ne peut plus le quitter.
Je lui ai fait valoir, comme il faut, la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour.
Ce sont, monsieur, des bontés qui m'accablent. Et je suis dans une confusion la plus grande du monde de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites.
Vous moquez-vous ? Est-ce qu'entre amis, on s'arrête à ces sortes de scrupules ? Et ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait ?
Oh, assurément, et de très grand cœur.
Que sa présence me pèse sur les épaules.
Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour.
Il est vrai, ce sont des bontés qui me confondent.
Est-ce qu'il ne s'en ira point ?
Ils se trouvent bien ensemble.
Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles, et vos fréquentes sérénades, et vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, et le cadeau que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même.
Il n'y a point de dépenses que je ne fisse si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants, et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toute chose.
Que peuvent-ils tant dire ensemble ? Va-t-on un peu tout doucement prêter l'oreille ?
Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue, et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire.
Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira à dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-dîner.
Vous avez fait prudemment, et votre femme aurait pu nous embarrasser. Je donnais pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses qui sont nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention, et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr qu'il sera trouvé.
Ouais. Vous êtes bien pertinente. Sortons, s'il vous plaît.
Merci à vous d'avoir été fidèle à Radio Canu pour ce rendez-vous du théâtre en musique. Aujourd'hui, c'était le bourgeois gentilhomme de Molière, Jean-Baptiste Poquelin. On a pu entendre les musiques de Vivaldi, Antonio Vivaldi, et concerto pour violoncelle et orchestre, et la marche pour la cérémonie des Turcs de Lully, la bien connue, qui fut composée pour la pièce en 1670. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu.
Quelques mots sur le plongeoir avant de se quitter ou pas du tout ?
Oui, d'accord. Alors, je voulais dire quelques mots sur le plongeoir, qui est un lieu qui est administré par un collectif qui s'appelle le collectif représentiste. Et qui est composé de jeunes gens, artistes en formation aux Beaux-Arts et puis au Conservatoire de Théâtre de Lyon, qui se sont rassemblés pour ouvrir un lieu de résidence et de représentation à des jeunes compagnies professionnelles de Lyon. Donc il y a une partie du local qui est leur lieu de résidence, donc ils y ont construit des petits studios, et puis l'autre partie qui est construite autour d'un espace un peu plus important où les compagnies viennent travailler. Voilà, ce plongeoir est situé juste en face de la MJC, la Hennec Mermoz, dans le 8e de la salle Genton. Et ma foi, s'y produisent et y défilent plusieurs groupes très prometteurs de jeunes compagnies professionnelles lyonnais qui ont été bien heureux de trouver cet espace, espace qui manque considérablement à Lyon pour que les jeunes compagnies puissent travailler. Donc merci aux plongeoirs d'avoir vu le jour et de continuer à force de travail cette belle mission qu'il s'est donnée.
Bah, il ne nous reste plus qu'à dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Théâtre de la Gamelle. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.